RCF.
Il est immuable le matin. Voici Thomas Dulin pour les infos. Bonjour Thomas.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Et à la une, Thomas, les pays du G7 accentuent la pression sur la Russie.
Réunis depuis hier en sommet dans les Alpes bavaroises, les dirigeants des 7 puissances ont annoncé la possibilité d'imposer un embargo sur l'or russe. Plus de 2 ans après, le Brexit continue de faire des vagues. Les députés britanniques examinent aujourd'hui un projet de loi qui remet en cause le statut douanier de l'Irlande du Nord. Les chauffeurs routiers en colère, ils réclament des hausses de salaire et sont appelés tôt ce matin à bloquer les zones industrielles. Et puis c'est la tradition en cette période de nombreuses ordinations dans tous les diocèses de France. Vous entendrez l'un de ces tout nouveaux prêtres en fin de journal. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, la capitale ukrainienne, Kiev, visée hier par les frappes russes. Un quartier résidentiel a notamment été touché. Une personne est décédée, plusieurs blessés. Difficile de ne pas y voir une forme de provocation de la part du Kremlin le jour de l'ouverture du sommet du G7. Les 7 plus grandes puissances mondiales réunies en Allemagne, elles n'ont pas tardé, évidemment, avant d'aborder le dossier principal, la guerre en Ukraine, avec de nouvelles sanctions annoncées contre la Russie, Magali Santulli.
Et oui, la décision n'est pas encore formellement actée par l'ensemble des pays du G7, mais dès hier, les dirigeants américains et britanniques ont annoncé un embargo sur l'or russe, une mesure qui priverait Moscou d'une manne financière de 19 milliards de dollars, d'après les États-Unis. Manière pour le G7 d'isoler encore un peu plus la Russie du système financier international. Le pays est l'un des plus grands producteurs d'or et l'un des plus grands exportateurs. Les dirigeants mondiaux qui veulent également maintenir un front uni alors que la guerre vient de rentrer dans son 5e mois. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit d'ailleurs prendre la parole ce matin par visio lors de cette réunion. En plus du renforcement des sanctions contre l'ennemi russe, il doit demander des armes supplémentaires ainsi qu'un soutien financier plus important.
Les précisions de Magali Santulli. Et après ce sommet du G7, les pays membres de l'OTAN se réunissent à partir de demain à Madrid. Hier, plusieurs milliers de personnes ont justement manifesté dans les rues de la capitale espagnole pour réclamer la paix et exiger la dissolution de l'Alliance Atlantique. En Équateur, le geste du gouvernement pour tenter d'apaiser la colère des manifestants. Après 2 semaines de violents affrontements entre des milliers d'indigènes et les forces de l'ordre, le président Guillermo Lasso a annoncé la réduction des prix du carburant à l'origine du mouvement de contestation. Il demande en parallèle le président de cesser les manifestations sous peine de stopper la production de pétrole, un mouvement de colère qui a fait plus d'un demi-millier de blessés.
Un nouvel épisode dans l'interminable feuilleton du Brexit.
Et oui, les députés britanniques examinent à partir d'aujourd'hui un projet de loi qui remet en cause le statut douanier de l'Irlande du Nord. Le texte a été présenté il y a 2 semaines par le gouvernement de Boris Johnson et il ravive les tensions entre Londres et l'Union européenne, Clotilde Dumay.
Et oui, parce que la Grande-Bretagne envisage une modification unilatérale du protocole qui a été signé entre les deux parties. Il doit normalement protéger le marché unique européen en évitant le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, qui est membre de l'UE. Une démarcation qui pourrait remettre en cause la paix conclue en 1998 après 3 décennies de troubles entre unionistes et républicains. La solution trouvée a donc été de maintenir l'Irlande du Nord au sein du marché commun en instaurant une frontière douanière en mer d'Irlande. Mais cette situation complique les approvisionnements et horripile les unionistes pour qui la place de la province au sein du Royaume-Uni est menacée et dont le principal parti paralyse depuis plusieurs mois la formation de tout exécutif local. Pour tenter de sortir de cette impasse, Londres voudrait donc que les marchandises circulantes et restant au sein du Royaume-Uni passent par un canal vert, les libérant de toutes démarches administratives. Celles qui seraient destinées à l'UE resteraient en revanche soumises aux vérifications et contrôle voulu par le droit européen. Mais Bruxelles dénonce cette révision unilatérale et vient d'ailleurs de relancer une procédure d'infraction pour violation du protocole. Elle avait été mise en pause en septembre 2021.
Précision de Clotilde Dumay. Retour en France avec cet appel inédit de la part des dirigeants des grandes entreprises énergétiques. Dans une tribune au JDD, les PDG de Total Energy, EDF et Engie demandent aux Français de limiter immédiatement leur consommation électrique, gazière et de produits pétroliers. pétroliers. Une prise de conscience individuelle et collective pour éviter les pénuries et une forte hausse des prix l'hiver prochain, expliquent les fournisseurs d'énergie. Et dans ce contexte, le ministère de la Transition écologique a confirmé hier que la remise en service de la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle dès cet hiver était en discussion. Une centrale qui a cessé ses activités il y a 3 mois.
Ils étaient appelés dès 3h du matin cette nuit à bloquer les zones industrielles.
Les routiers sont en grève. L'ensemble des fédérations syndicales appellent à la mobilisation nationale. Elles demandent des hausses de rémunération pour un secteur en pleine crise, touché par une pénurie de salariés qui inquiète. Thierry Douin est le président de la Fédération Générale des Transports CFTC.
Aujourd'hui, on cherche 50 000 conducteurs routiers. Si on continue à ce rythme-là, ça sera 60 000. La pyramide des âges de ce métier est un métier vieillissant. Et on a beau former les jeunes sont formés, ils rentrent dans la profession, ils en sortent aussi vite qu'ils sont rentrés quand ils ont découvert la vraie vie. Enfin voilà, il y a quand même une situation d'urgence. Et je pense que les branches professionnelles devraient s'en préoccuper beaucoup plus que ça. C'est quelque chose où il faut se mettre autour de la table, qu'on regarde comment on va remettre des nouvelles méthodes de travail avec la vie actuelle. Parce qu'il n'est pas normal que les gens travaillent jour, nuit, samedi, dimanche. Il faut retrouver des équilibres vie de famille, vie professionnelle et en même temps des salaires vraiment de techniciens, de gens ayant des métiers compliqués à laquelle il faut des formations rigoureuses pour exercer cette profession.
Et toujours au chapitre social, la colère également des soignants.
Et oui, cela fait des mois que les syndicats alertent sur la crise majeure en cours, manque de moyens et de personnel, certains services d'urgence contraints de limiter leur activité, ce qui fait craindre pour la période estivale à venir. Dans ce contexte, la Fédération hospitalière de France a lancé une grande enquête auprès de 400 établissements hospitaliers et paramédicaux. Et s'il confirme le mal-être de la profession, ce rapport ne conclut pas vraiment à une véritable fuite des soignants. Les effectifs auraient même progressé de 3% entre 2019 et 2021, mais pas suffisant pour combler les postes vacants. Vincent Roch est le directeur de cabinet de la Fédération hospitalière de France.
Ce que confirme l'enquête, c'est que la situation pour les soignants, les tensions sur les effectifs se sont dégradées depuis une dizaine d'années. C'est un mouvement continu puisque l'absentéisme a augmenté de 2,5% entre 2012 et 2022, mais avec une accélération depuis 2020, c'est-à-dire le déclenchement de la crise sanitaire. Il y a à la fois eu un mouvement de renforcement de la charge en soins, c'est-à-dire que nous avons besoin de davantage de professionnels pour s'occuper des patients parce qu'ils ont parfois des pathologies ou des états de santé qui sont plus lourds, mais aussi parce que l'absentéisme est plus important dans les services. Donc ça veut dire qu'il y a davantage de fatigue. Et donc, même s'il y a davantage de professionnels dans les services qui ont été recrutés, au fond, on voit que le nombre de postes vacants, c'est-à-dire le nombre de professionnels dont on aurait besoin pour faire tourner dans des conditions optimales l'ensemble des services de soins, n'est pas pourvu.
Vincent Roch de la Fédération hospitalière de France. Le gouvernement précise ses mesures pour lutter contre la forte inflation. Il n'y aura pas de gel, mais un plafonnement des loyers, pas plus de 3,5% d'augmentation. Les acteurs du logement invités ce lundi à discuter de la mesure au ministère de la Transition écologique. L'exécutif qui planche par ailleurs sur la future loi pouvoir d'achat qui doit arriver cet été. Le gouvernement réfléchit à une hausse de 4% de nombreuses prestations sociales. Dans ce contexte, Elisabeth Borne tente de trouver un accord de gouvernement, mission confiée par Emmanuel Macron. La première ministre reçoit à partir d'aujourd'hui les présidents de groupes parlementaires.
Et puis Thomas, c'est la tradition. À l'approche des fêtes de Saint-Pierre et Paul, de nombreuses ordinations sont célébrées en France.
Oui, et c'était le cas notamment ce week-end en la cathédrale Saint-Pierre de Rennes où Anderson Rodriguez da Silva a été ordonné prêtre. Ce jeune Brésilien de 30 ans est arrivé en France en 2015 pour y réaliser ses études de séminariste. Écoutez son témoignage.
Très important de la vie du séminaire, c'est qu'il nous donne des clés pour comprendre et pour accueillir, aussi pour faire grandir aussi toutes ces réalités paroissiales. Donc ce n'est pas vraiment une expérience, le séminaire en soi, ce n'est pas une expérience paroissiale. Voilà, ce n'est pas la paroisse, mais le séminaire, il nous aide humainement, spirituellement, intellectuellement à nous placer dans une paroisse comme des hommes de foi, comme des baptisés, comme des personnes, des frères et aussi des pasteurs qui sont au service de tous les hommes. Et d'ainsi créer une communauté unie qui aime le Christ et qui accueille tous les hommes et les femmes de notre temps.
Le prêtre Anderson Rodriguez da Silva au micro de Maurice Turio de RCF Rennes. Toujours au chapitre religion, c'est aujourd'hui que débute la visite apostolique dans le diocèse de Strasbourg, un audit ordonné par le pape François sur d'éventuels problèmes de gouvernance. On y revient plus en longueur dans le journal de 7h30. En sport, c'est de son propre aveu la plus belle victoire de sa carrière. À 28 ans, Florian Sénéchal a été couronné hier champion de France de cyclisme à Cholet après une saison difficile. Il portera donc le maillot bleu-blanc-rouge pendant un an, une course qui a également signé le retour à la compétition du champion du monde, Julian Alaphilippe, après sa grave blessure. Julian Alaphilippe, toujours incertain pour le Tour de France qui débute vendredi, il doit dire demain s'il participera ou non à la course.
Il part d'où le Tour de France, Thomas? C'est Copenhague, c'est ça la première
Exactement,
étape?
Exactement, c'est ça, ouais.